est très chaude. Merci. C'est gentil. Voilà, je vous invite à prier pour que nous puissions ouvrir la parole de ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous apporter. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est éternelle, Seigneur. Elle nous a été donnée, Seigneur, et tu as dit que pas un seul, Seigneur, trait de lettre ne sera enlevé, Seigneur, de ta parole. Parce que, Seigneur, c'est une parole éternelle, une parole, Seigneur, que toi-même tu as inspirée par ton esprit. Et, Seigneur, nous voulons ce matin être à l'écoute de ta voix. Seigneur, conduis toutes choses. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la suite de dimanche dernier. Si vous voulez avoir la partie de la première réflexion sur ce thème des conseillers, des conseils et des conseillers. Aujourd'hui, c'est des conseillers, oui, mais. Voilà, conseillers. Alors, je rappelle quand même la définition que je poursuis dans cette étude. Le conseil, il a deux exceptions de définition. Un, c'est un avis de sagesse, un avis sage qui est donné. Voilà, donc, on l'écoute parce qu'il est sage, ce conseil, cet avis. Et ça, on peut utiliser aussi ce mot pour désigner une assemblée restreinte, une petite assemblée composée de conseillers. Et c'est un organe de décision dans toutes les instances, que ce soit d'église ou du monde. C'est un organe qui décide de choses exécutoires, qui doivent être exécutées. Donc c'est une autorité. C'est une décision, c'est un organe d'autorité. Les conseillers, ben, ce sont les membres qui délivrent ces conseils, qui sont dans ces conseils, qui donnent leur avis et qui participent à une prise de décision. Parce que si on veut que ce soit exécuté, il faut qu'il y ait une décision commune pour réaliser les projets. Voilà, c'est très simple. Et on a vu que... il y a le conseil de Dieu, le conseil de l'Éternel. Je ne reviens plus sur les passages que j'ai cités. Il y a un conseil dans le ciel qui est présidé par Dieu et dans lequel il y a des décisions qui sont prises, dont celles que j'ai évoquées l'autre fois, où même il peut envoyer un esprit de mensonge ou un esprit je pense à Pharaon, voyez-vous, qui était dur. Dieu peut faire ce qu'il veut, et il peut donner des ordres aussi aux esprits méchants, qui sont méchants parce qu'ils sont aux ordres du Seigneur. Et donc, dans ce conseil, il y a des décisions qui sont prises pour les projets que Dieu il a. Et il a tout plein de projets, que ce soit en local, comme nous, ou que ce soit plus général, en région, dans le monde, etc. Et donc, c'est dans ce conseil de l'Éternel que les choses se passent. Pourquoi ? Parce que Dieu aussi envoie des messagers. Vous savez, le mot « ange », c'est le mot « messager », c'est la même chose. Donc, messager ou ange. Donc, on voit des messagers. Vous savez que Dieu vous envoie des anges, hein, des messagers. Peut-être que vous ne l'identifiez pas, mais parfois, on peut les identifier. Ils ne veulent pas qu'il y ait la gloire sur eux, mais ils viennent à vos côtés pour vous aider, surtout dans des situations impossibles. Donc, ils reçoivent des ordres de la part de l'Éternel. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à venir prier, parce que quand on prie, on demande à Dieu d'intervenir et il donne des ordres à des anges pour agir, intervenir, ou c'est directement son esprit. Il a toutes sortes de moyens à sa disposition, mais souvent c'est dans les conseils que les choses se décident. Alors nous, on a aussi un conseil dans l'Église, même qu'on a subi des diminutions d'effectifs drastiques ces derniers temps, mais on a toujours un conseil, et c'est toujours ce conseil qui prend les décisions. Donc le conseil dans l'Église, c'est l'organe de décision, qui est présidé par le pasteur principal titulaire que je suis actuellement, qui comprend trois organes. C'est un organe pastoral, donc c'est des décisions concernant tout ce qui est pastoral, doctrinal, etc., qui doivent être pris par des personnes compétentes. Le fonctionnement, donc la vie de l'Église, et l'administration, parce qu'on a des obligations légales aussi vis-à-vis de notre gouvernement, qui nous donne la possibilité de nous réunir, mais on a certaines obligations, donc ça se traite dans le conseil d'administration, dans l'organe qui réunit les administrateurs. Alors dans Proverbe chapitre 11, il y a ce verset qui est tout le temps invoqué, comme si c'était le plus grand nombre de conseillers qui était important. Donc il dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc il y a certaines personnes qui insistent sur le fait du nombre. Hein. Un peu comme si, au lieu de, par exemple, en tant que président de pasteur, je consulte deux personnes, je devrais consulter 100 personnes, et que c'est grâce aux 100 personnes que la décision est meilleure. En fait, ce n'est pas comme cela qu'il faut comprendre ce verset. D'ailleurs, dans Jérémie, je prends juste un exemple, hein, il y en a 36 000 qui vont dans ce sens, 18-18, qui dit, on trouvera toujours des prêtres pour enseigner la loi. Des sages pour nous donner des conseils, ainsi que des prophètes pour proclamer une parole. Donc, vous voyez, que ce soit l'enseignement de la loi, comment se conduire, hein, qui est plutôt le domaine pastoral, des conseils avisés, on verra tout à l'heure de quel ordre il s'agit, et des prophètes qui parlent de la part de Dieu directement, que ce soit des visions, des révélations, des songes, etc., tous ces charismes auxquels on croit. Eh bien, tout cela, c'est pour diriger le peuple de Dieu. Et on a beaucoup, beaucoup de révélations de ce genre dans l'Église depuis qu'elle existe. Je prends par exemple le cas de David. Si vous prenez David, hein, dans les Écritures, vous avez différents conseillers qui sont autour du roi David. Vous avez des prophètes. Le premier, c'était Samuel, ensuite Nathan, qui conseillait David, hein, et qui l'accompagnait durant tout son ministère de roi. Vous avez des voyants, comme Gad, par exemple, vous pouvez lire dans 2 Samuel 24, 11. Ce voyant, c'est des gens qui voient. Hein. Je connais des gens qui voient simplement, comme par exemple dans Ézéchiel, il voyait l'armée du ciel qui était là et qui allait lui donner la victoire. Et celui qui était à côté de lui, donc le serviteur, il voyait pas. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Vous voyez? Donc les anges dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des réalités qui sont créés par Dieu, qui viennent au secours. Et donc, il est venu, cette armée céleste est venue au secours. Et d'ailleurs, la suite du récit, vous voyez que l'ennemi tombe comme des mouches. Hein. Et moi-même, je me suis converti en 1967, quand il y a eu la guerre des six jours, et qu'un ami m'a expliqué tous les miracles que l'armée d'Israël a vécu en 67, qui étaient des miracles du style de l'Ancien Testament, des miracles incroyables où les Arabes sont sortis de leurs chars alors que vous n'avez même pas un fusil, rien du tout, et ils sont partis, ils ont tout laissé. C'était dans le désert en Égypte, par exemple. Mais il y a tout plein de témoignages comme ça. Donc il y a des voyants, il y a des sages. Et des sages, c'est dans différents domaines de sagesse. Par exemple, dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 33, il est dit qu'il y avait 200 personnes, donc 200 hommes de la tribu d'Issacar, qui discernaient les temps. C'est quoi discerner les temps, si vous regardez de près? C'est de comprendre la culture. Vous savez, dans une culture, il faut savoir comment agir. On n'agit pas, par exemple, en France, comme en Allemagne, ou comme aux États-Unis, ou comme, etc. Il y a une culture, une connaissance de la culture dans laquelle on est pour agir avec sagesse. Et donc, aujourd'hui, on appellerait ça des sociologues, pour mettre un terme moderne à ce genre de sagesse qui était autour de David. Ensuite, des Lévites qui étaient habiles en musique, par exemple. Vous voyez, les Lévites devaient, comme Moïse, qui a ce don de la musique et d'entraîner dans la louange, eh bien, c'est un sage, c'est de la sagesse musicale. Ensuite, il y a les sages qui connaissent la manière d'être habile habile manuellement. Hein. Donc Proverbe 22-29. Alors c'est habile dans les mains, mais aussi dans le langage, dans la rhétorique, etc. Hein, tout ce qui est habileté pour se débrouiller dans la vie. Et il y a les sacrificateurs qui font partie aussi de ceux qui conseillaient David hein, sur la loi, par exemple. Hein. Pour le respect de la loi, ils sont vraiment des compétences, puisqu'ils conduisent le culte dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a d'autres passages bibliques qui ne sont pas cités pour David, mais pour d'autres rois et autres. Ce sont des sages qui savent gérer des situations complexes, d'intendance, comme par exemple Joseph, qui avait cette capacité de gérer les choses. Il a même géré toute l'Égypte. Hein, oui. Il y a les managers, hein, donc ceux qui conduisent des personnes. Hein. Et pour la construction du temple avec Salomon, il y avait ces sages qui étaient là, qui faisaient tout un tas de choses pour la construction du temple. Il y a des visionnaires aussi, alors les visionnaires au sens non pas de voyants, mais qui voient les projets avant qu'ils ne se réalisent. Comme par exemple Néhémie. Néhémie, quand il était en déportation et qu'il a entendu le déshonneur de Jérusalem, qui n'avait plus de mur, ils avaient certes avec Esdras un temple, mais il n'y avait pas de mur. Et quand il n'y a pas de mur, eh bien l'ennemi il rentre, il sort comme il veut dans ce temps-là. Dans les villes. Et donc, il a eu la vision qu'il fallait reconstruire les murailles de Jérusalem avec les portes, etc. Et il a été utilisé par Dieu, mais il avait une vision. Il avait une vision. Nous, pour nous, c'est la vision du phare. Hein, et pour ceux qui rejoignent l'Église, on aura du temps pour cela, pour vous expliquer cette vision. Les conseillers actuels, juste pour vous montrer qu'on n'est pas dépourvu de conseillers aujourd'hui hein, dans l'Église, donner une idée des conseillers qui nous entourent. Donc d'abord, les conseillers en interne, c'est donc les conseils pastoraux hein, dans lesquels on définit les doctrines, la ligne directrice de ce que nous croyons en termes de foi. Il y a le fonctionnement, donc c'est la vie de l'Église, les événements, la façon dont les choses se passent au quotidien, et l'administratif, l'administration, pour lequel il faut aussi certaines compétences pour respecter ce que le gouvernement attend de nous. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a au moins deux choses, les finances et la moralité. Ensuite, il y a l'équipe apostolique Élim, puisque maintenant on a rejoint une union d'églises qui s'appelle Élim. Et cette équipe apostolique, il y a des personnes d'Yvetot qui sont dedans, qu'on connaît bien, Gilles, qui est aussi mon mentor personnel. Il y a Jérémy, il y a Arnaud, ceux qui connaissent. Et il y a les autres personnes d'Élim France, qui sont Jean-Hugues, Luc Favre et d'autres, etc., Judith Robertson, etc., qui me conseillent aussi, parce que je les ai aussi en vis-à-vis pour tenir compte de leurs conseils, et j'ai déjà tenu compte de ces conseils, entre autres pour la dernière Assemblée générale. Il y a aussi les pastorales du Mantois, on est très proches, en tout cas pour ce qui a été du passé. Là, il y a un renouvellement pastoral, mais on est très proches et on se soutient les uns les autres. Et aussi la FLTE, qui est là, hein, qui est la faculté qu'on a toujours fréquentée depuis qu'on est ici, depuis 1974. Et il y a aussi des conseillers en relation d'aide. Qu'on a aussi en vis-à-vis. Alors, c'est qui ces conseillers-là? Eh bien, c'est par exemple Jacques Poujol, hein, qui nous a beaucoup aidés dans le passé et pour lequel j'ai encore tous les auditions, etc., sur un certain nombre de sujets qui nous aident à gérer l'Église avec sagesse. Il y a Simon Polyte pour la maison d'Élie. Donc, on a travaillé 2 ans sur cette relation de guérison intérieure. C'est plus une guérison intérieure. Et Jack Efford, qui maintenant est décédé, mais qui nous a beaucoup impacté. On a, avec Michel, été à son contact pendant des années et qui a créé le torrent qui purifie, Cleansing Stream. Voilà. Et tous ces matériels-là, on l'a, qui nous aide à, Seigneur, résoudre un certain nombre de sujets qui se présente dans l'Église. Voilà. Et tout ça nous permet de faire des projets. Des projets les plus, disons, ne sont pas parfaits, mais en tout cas, ils sont mieux que si ces conseillers n'existaient pas. Alors, quels sont les risques? Les risques des conseillers. C'est bien d'avoir des conseillers, mais il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des risques. Hein. Et les risques, c'est la trahison et la division. Je vous donne deux exemples pour que vous vous situiez un petit peu dans ces risques de conseiller. Il y a David qui a été trahi par son meilleur ami, qui s'appelait Achitophel, qui l'a trahi, qui est allé dans le camp ennemi aider son fils qui s'est rebellé. Mais David, l'histoire nous montre qu'il continuera à régner, qu'ils n'ont pas réussi et que lui n'a pas réussi à le débloquer, parce que Dieu ne l'a pas permis. Le deuxième, c'est Roboam. Alors Roboam, c'est le fils de Salomon, qui a pris la suite de Salomon. Là, lui, il a provoqué la division du peuple d'Israël, puisque c'est lorsqu'il a voulu reprendre la relève de Salomon, il a mal agi sur des conseils qui n'étaient pas avisés, enfin que lui a choisi. Il avait les bons conseils, il ne les a pas pris, et qui a conduit à la division du peuple. Et Roboam n'a gardé que deux tribus, et les 12 tribus sont passées à Jéroboam. Et à partir de là, l'Israël a été divisé en deux, Israël et Juda. David est un type de Christ. C'est-à-dire un roi berger, rassembleur, qui marche selon l'Esprit de Dieu, qui a laissé à Dieu faire la justice et le choix du leadership. Très souvent, quand vous lisez l'histoire de David, il disait, bon, si ce n'est pas moi, bah, ce sera quelqu'un d'autre. Et il n'était pas accroché à son trône. Il a laissé Dieu faire. Pourtant, Dieu l'a à chaque fois remis sur le trône parce que, eh bien, c'était un type de Christ, un type qui montre que quand on compte sur Dieu, uniquement sur Dieu, Dieu rétablit les choses. On n'a pas besoin de se battre à mort pour garder un pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir et qui le reprend. Roboam est un antitype de Christ. C'est-à-dire, c'est un roi tyran, impie, c'est-à-dire qui reconnaît pas la souveraineté de Dieu, qui marche dans la chair. C'est certes un Israélite, c'est quand même le fils de Salomon, mais c'est lui qui a fait les choix lui-même. Il avait deux conseillers, deux conseils, un de sa génération qui ont dit oh, il faut être dur, etc. Et la génération de son père qui avait dit non, il faut pas que tu sois dur, etc. Il a choisi celui des jeunes. Et il a divisé le peuple en deux. Voyez-vous, c'est parce qu'il n'a pas, au final, demandé à Dieu de lui montrer quel est le choix qu'il devait prendre. Il a compté sur ses propres forces. Là, c'est une représentation de Roboam, non pas de Roboam, d'Absalom, pardon, le fils, hein, qui d'un côté est avec Achitophel et de l'autre côté avec Abishai. Donc Achitophel, celui qui est à gauche sur l'image, il rejoint le rebelle Absalom. Absalom, c'est le fils qui voulait le trône avant la lettre, hein, parce que à l'époque c'était effectivement l'aîné, mais l'aîné, il l'a tué, hein, il a tué Amnon. Je ne reviens pas sur l'histoire. Et donc, du coup, c'est lui qui était l'aîné. Donc, il a dit, bah, je prends la place. Il n'a pas attendu que Dieu lui donne. D'ailleurs, ça continue à Adonijah, et après, il a fait la même chose. Et David a tranché. Il a mis Salomon sur le trône. Mais quand on est trop pressé à vouloir prendre un pouvoir, eh bien, on fait des bêtises très graves. Donc, Absalom s'est rebellé contre David. Et Achitophel l'a rejoint. Mais Dieu déjoue ses plans grâce à Hushaï. Hushaï qui a. Voilà, et on va voir un petit peu cette histoire-là. Donc Achitophel, c'était un conseiller qui s'est centré sur lui, sur la sagesse qu'il avait de conseiller, au lieu d'être centré sur la volonté de Dieu. Et ça fait beaucoup de peine à David. Dans le psaume 41, verset 9, On a l'histoire où David se plaint de cette trahison. Il dit, mon intime ami, donc il parle de Achitophel, mon intime ami en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. C'est Psaume 41, verset 9. Dans Psaume 55, verset 12, voilà ce que David dit. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors je l'aurais supporté. Ce n'est point celui qui me hait qui se levait orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. Nous avions ensemble de douces communications, nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Voyez-vous, Achitophel allait avec David dans la maison de Dieu. Et David est trahi, abandonné par son meilleur conseiller. Pourtant, Achitophel, il portait un nom. Vous savez qu'à l'époque, les noms qu'on donnait, ou les prénoms, c'était les parents qui soit discernaient sa personnalité ou qui lui donnaient un nom. Et vous savez ce que veut dire Achitophel? C'est frère de la folie. Donc on pouvait déjà un petit peu se méfier de ce qu'il allait faire. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Mais dans Israël, souvent, c'était comme ça qu'on appelait les personnes de manière prophétique. Donc Achitophel, un homme que David considérait comme son premier et meilleur conseiller. C'est pour ça que ma prédication sur les conseillers, eh bien, ça ne peut pas mieux tomber que sur Achitophel, qui était le premier conseiller, celui qui l'écoutait absolument, et le meilleur parmi tous ceux qu'il avait. Donc, Achitophel, qui était de Guilo, ville de Juda, qui voisine d'Hébron, donc à côté de Jérusalem, c'est un nom qui signifie fils de la folie. Et David le considère longtemps comme son meilleur conseiller, au point que l'Écriture déclare dans 2 Samuel 16, c'est comme si on s'était enquis de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il avait une telle sagesse que c'est comme si Dieu parlait au travers de lui. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel conseiller, c'est un conseiller qui annonçait pratiquement l'autorité de la parole. Et Absalom, qui s'est rebellé contre David, qui a été rejoint par Achitophel, et il reconnaissait la même chose. C'est-à-dire qu'il l'a reconnu universellement comme quelqu'un qui donnait des paroles de sagesse. Et David était très proche de lui. On pense que c'est lui qui est désigné dans les psaumes par mon conseiller et mon ami. Pourtant, si Achitophel avait aux yeux des hommes une forme de sagesse, elle se révèle à la suite de ce que on va voir, être terrestre, charnel, animal, diabolique, comme le précise Jacques, chapitre 3, verset 15. C'est une sagesse humaine. Tôt ou tard, vous savez, Dieu permet que le secret des cœurs soit révélé, dans Matthieu 10, verset 26. Et au moment où David traverse des pires circonstances de sa vie, où ses sentiments sont blessés à cause de son fils qui se rebelle contre lui, c'est là que les sentiments d'Achitophel se révèlent. Et c'est toujours comme ça. Parce que les personnes se cachent dans leurs sentiments vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de vous. Et vous ne connaissez pas ces sentiments, sauf que quand vous êtes dans des difficultés, c'est là qu'ils se révèlent. Parce qu'à la limite, ils profitent pour vous écraser et manifester leur rancune contre vous. Il semble qu'Achitophel n'avait qu'un fils, Éliam. Et cet Éliam faisait partie des 30 hommes, des vaillants hommes de David. Donc, vous voyez, déjà, même son fils était dans un cercle d'intimité qui soutenait le roi David. Uri, un autre vaillant guerrier, avait épousé Bathsheba, la fille d'Éliam. Et David, qui était resté inactif de Jérusalem, où les rois entrent en campagne, eh bien, il avait convoité la femme d'Uri. Celle-ci, consentante, sera enceinte. Et pour cacher son péché, David utilise un subterfuge en faisant assassiner son mari. Et Ça a beaucoup blessé Achitophel. Parce que Achitophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Donc on peut comprendre. On peut comprendre. Hein, comprendre les choses, c'est une chose. Les excuser, c'est autre chose. Donc on peut comprendre qu'Achitophel a quelque chose contre David. Quelque chose de concret. Hein, bon. Achitophel, donc, dans la mesure où il a vu ce que David a fait, eh bien, on a voulu à David, et il l'a gardé dans son cœur. Il faut faire attention de ne pas juger les apparences. Hein. Il semble que, justement, cette haine était profondément ancrée en lui contre David, et il ne lui a pas pardonné. Hein. Et c'est souvent, justement, ce manque de pardon qui, dans les cas de crise, eh bien, amène des difficultés dans le leadership. Achitophel se trouvait justement, vous voyez, c'est un peu comme le hasard, comme l'ennemi dispose les choses, il se trouvait justement à Hébron, où Absalom s'est nommé roi, roi à la place de David. Il était là au moment où Absalom se révolte ouvertement, et c'est là qu'il a accepté de se rapprocher d'Absalom, de quitter David et de se rapprocher, de conseiller Absalom. Achitophel fut le. Faut se rappeler que Achitophel, c'était le premier dans le conseil de David, qui était le plus écouté, mais c'était aussi le seul à le quitter. Donc tous les autres conseillers de David ne l'ont pas quitté. Et il s'est joint à la révolte donc d'Absalom contre son père. Et bien sûr, cette défection du conseiller le mieux, il savait que s'il allait passer du côté d'Absalom, David aurait d'énormes problèmes parce qu'il avait de bons conseils. Et les bons conseils étaient aussi bien pour David que pour. Parce que ce n'était pas des conseils d'inspiration spirituelle, c'était des conseils de sagesse. Hein. Il faut faire ça, un tas de guerres, etc. Voilà, il était très habile dans ses conseils. Et Dieu a utilisé Abishai, un autre qui était très proche de David par la suite, pour contrecarrer le conseil d'Achitophel, qui, lui, aurait tué David s'il avait été appliqué par Absalom. Donc vous voyez bien qu'il avait toujours gardé sa capacité de conseiller. Conseiller en temps de guerre, par exemple. Absalom, donc, fait venir auprès de lui ce conseiller de David, et c'est ensemble qu'ils vont entrer à Jérusalem. Donc, de Hébron, où il s'est proclamé roi, avec un certain nombre de personnes hein, qui l'ont adoubé, il est rentré dans Jérusalem. Et la présence d'Achitophel, hein, aux côtés d'Absalom, contribue certainement à rendre la conjuration, cette conjuration puissante. Parce que le peuple, vous savez, est versatile. Il va souvent vers le dernier. Ah oui, maintenant, c'est Absalom qui est puissant, etc. Mais le peuple, il ne faut pas compter sur le peuple pour avoir une fidélité. Hein. C'est le peuple, il va vers là où on mange bien, là où ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle voilà, ne pas avoir de stabilité, mais on ne peut pas demander grand-chose au peuple, parce que ce qu'il veut, c'est juste être bien nourri et bien vivre. Donc David, quand il voit ça, il ne veut pas casser le peuple, il ne veut pas casser les choses. Donc il décide de fuir. Donc lui, le roi David, qui a été placé par Dieu et par les hommes, sur Israël, il décide de fuir. Et il se soumet à la discipline de Dieu. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est un type de Christ. C'est-à-dire, il sait que si Dieu permet que son fils, avec Achitophel, rentre dans Jérusalem, si Dieu le permet, c'est que lui doit apprendre quelque chose. On voit là l'obéissance de Jésus, qui, malgré le fait qu'il était Dieu, et on le lit très souvent au moment du repas du Seigneur qu'on va prendre tout à l'heure, eh bien, il n'a pas arraché à être égal à Dieu. Il a accepté d'être un homme qui va être broyé par la souffrance, qui va être broyé par la lourdeur des péchés. Et ça, c'est un type de David. David ne voulait pas mettre en péril le peuple de Dieu qui, au travers de tout ce qu'il aurait vu, en disant, ça y est, maintenant, David, il n'est plus roi, eh bien, il a accepté de fuir et de préserver l'unité, en disant, si le Seigneur veut que je revienne, c'est ce qu'il disait à ses proches, eh bien, le Seigneur le fera. S'il considère que je ne reviens pas. Vous voyez, il n'est pas accroché à son pouvoir. Il est accroché, en fait, de vouloir servir Dieu. Et il le dit dans 2 Samuel 15, si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, alors il me ramènera et me la fera voir, elle et sa demeure. C'est-à-dire que je reverrai Jérusalem, si Dieu le veut. Alors donc, il suit en pleurant un chemin de douleur et il gravit des chaussées le mont des Oliviers. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Jésus, par la suite, a gravi le mont des Oliviers avec sa croix. Exactement la même chose que ce que David a fait des années au préalable. Et là, il n'y a que quelques amis, un peu comme Jésus, il n'y avait que quelques personnes qui le suivaient. Là, il n'y avait que quelques personnes, lui, le roi d'Israël, qui avait tout le peuple derrière lui. Vous voyez? Quelle humiliation. Eh bien, non, il accepte. Et quelques amis, eh bien, l'entourent. Et il accepte ce châtiment que Dieu lui inflige à la suite de ses fautes. Il reconnaît toujours, même s'il a demandé pardon, de ce qu'il a fait avec Uriel, de ce qu'il a fait avec Bathsheba. Il demande pardon, il redemande pardon. Et c'est pour ça aussi qu'on va faire la fête des trompettes à la rentrée. Parce que nous aussi, on reconnaît qu'on n'est pas parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il est parfait dans la salle? Ben, j'aimerais le rencontrer, parce que personne n'est parfait. Ni moi, ni personne. Donc on a tous besoin de demander pardon à Dieu et les uns aux autres. Et c'est ainsi que lui continue à reconnaître que si Dieu bien, lui en veut encore, ou veut lui apprendre quelque chose, eh bien il accepte. C'est là aussi que l'homme de douleur, donc qui était Jésus dans le jardin de Gethsémané, offrira avec cris et avec larmes. Eh bien, cette prière de supplication pour le sauver de la mort. Jésus a dit, sauve-moi si c'est possible que cette coupe s'en aille. Hein. Mais sauf que la différence entre David et Jésus, c'est que David a péché et Christ n'a jamais péché. Et, mais par contre, le type, il est là. C'est la même attitude. C'est à ce moment-là que le roi David apprend la trahison d'Achitophel qui occupe, eh bien, une place très importante à côté de son fils Absalom qui s'est révolté. Et dans 2 Samuel 15, verset 31, il crie à Dieu, Éternel, je te prie, rends vain le conseil d'Achitophel. Et vous, David, il n'est pas inconscient. Il est tout à fait conscient que les conseils d'Achitophel, ils sont aussi pertinents avec Absalom que lui. Et que s'il lui donne des conseils de guerre, David, il est mort. Donc David ne peut pas s'en sortir avec Achitophel qui est allé vers Absalom. C'est aussi que plus tard, avec Jésus, hein, Judas viendra à la tête des soldats pour livrer Jésus. Et Jésus lui a dit, ami. Jésus lui a dit, ami à Judas. Ami, pourquoi es-tu venu? Dans Matthieu 29. Et vous, Jésus ne prend pas les gens pour des ennemis. Même Judas. Judas faisait partie des 12. Il a choisi. Et comment nous pourrions prendre quelqu'un comme ennemi? C'est complètement contraire à l'évangile. Il dit ami. Ce problème, c'est que Judas devra répondre de ses actes. C'est autre chose. Même s'il est ami, ou il était ami, il doit répondre. Ça, c'est la grande nouveauté du protestantisme par rapport au catholicisme avec Luther, qui, quand il a été confronté à cette rencontre, c'était Weimar, non, c'est pas Weimar, c'était enfin, là où il a convoqué devant tous les juges Charles Quint, et toute la nuit, il a prié. Et le matin, il donne ce discours qui est mémorable et qui dit que c'est ma conscience. Ce n'est pas la conscience de l'Église, c'est ma conscience, c'est ma responsabilité de ne pas lâcher ce que je dis. Voyez-vous, c'est la différence. Est-ce que nous nous sentons responsables, que nous ne mettons pas la responsabilité sur quelqu'un, sur un corps social, sur un, etc. Et ça, c'est la capacité, c'est la particularité du protestantisme, c'est d'accepter notre responsabilité. Alors, David, il commence à prier et à demander à Dieu dans 2 Samuel 15 que le Hushaï, donc celui, un autre proche de lui, un conseiller, eh bien, puisse aller à Jérusalem pour contrer le conseil d'Achitophel. Et Dieu se servira de cela, par cette prière de David, pour faire chuter le plan machiavélique que Absalom avait prévu. Vous savez, si nous sommes serviteurs du Seigneur, nous sommes tous, à chacun de notre niveau, de responsabilités différentes, serviteurs du Seigneur. Nous n'avons pas à choisir le lieu, le moment ou la manière de le servir. Peu importe si l'endroit et les conditions de vie sont désagréables, pensons alors au chemin que Christ nous a donné. Voyez-vous, souvent nous disons, ah, si j'étais là, si j'étais là. Non. Là où nous sommes, eh bien, soyons fidèles au Seigneur. Même si c'est désagréable, David, il n'a pas choisi cette position. Dieu l'a mis dans cette position, il a accepté, mais il a réagi en priant Dieu de le sauver de cette situation. Alors, regardons les deux conseils qui ont été donnés à Absalom. Hushaï, donc il était assez habile, il savait où il voulait arriver. Hushaï, qui était envoyé par David, il va feindre devant Absalom eh bien de lui donner un avis qui a l'air très sophistiqué. Hein. Parce que le premier avis que Absalom a reçu d'Achitophel, cet avis montre qu'il était corrompu. Parce qu'il n'hésite pas à lui donner des conseils pour aller très vite tuer David parce qu'il était en position de faiblesse, il avait très peu d'hommes, il était pas loin de là où il allait envoyer toute son armée. Et donc, il a cherché à le tuer, donc à lui donner des conseils de tuer David, tout de suite, le plus vite possible, au lieu de dire, bon, on va peut-être le mettre en prison, bon, non, non, vous voyez, c'est le fils de David, Absalom. Et donc, il donne ce mauvais conseil Absalom. Et en fait, ce félon, hein, cette personne pervertie, sans le savoir, il va hâter la restauration spirituelle de David. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses difficiles, même ce que David a vécu. Même si on vit des choses difficiles, si on compte sur Dieu, on sait que toute chose concourt à notre bien. Et parfois, Dieu utilise même des incrédules, des païens, pour soit comment dirais-je, nous corriger. Il y a des païens qui peuvent nous corriger, hein. C'est Dieu qui permet. Quand je vous disais que dans son conseil, il peut même envoyer un esprit méchant de mensonge, voilà, Dieu. Il est Dieu. Hein. Et donc nous, par notre raisonnement, on peut dire, c'est pas possible. Non, tout est possible, parce que Dieu, il est Dieu. Et donc, il fait ce qu'il veut. Donc, il peut même utiliser des païens. Et il l'a fait avec David, avec ce fameux Michéi qui est sorti, qui a crié sur David. Et David, ces gens l'ont dit, mais regarde, ce crétin, il te lance. Il a dit, non, laissez, si c'est Dieu. Il faut laisser, c'est que je dois accepter l'humiliation. Et donc, Achitophel va donner un deuxième conseil, aussi méchant que le premier. Il a dit, il faut frapper tout de suite David. Faut pas attendre. Faut tout de suite que tu envoies des hommes, parce qu'on sait qu'il n'est pas loin. Il était au mont des Oliviers, hein, Jérusalem, voilà. Il n'était pas encore parti en Égypte. Il faut le tuer tout de suite. Et ce conseiller, donc le Hushaï, il va proposer un autre plan, un autre stratagème pour pour amadouer Absalom de ne pas suivre le conseil qui était efficace, qui aurait tué David. Et vous voyez comme quoi Dieu dirige les circonstances. Et il influence les cœurs selon sa souveraineté. C'est écrit dans Proverbe 21, verset 1. Et Hushaï, donc, est appelé en proposant un plan démesuré. Alors, il a proposé quelque chose, voilà, contrairement à Achitophel, qui disait il faut tout de suite le tuer. Il proposait un plan très très compliqué. Il cherche tout simplement à laisser du temps à David. Il savait ce qu'il faisait dans ce conseil. Il voulait que David ait le temps de fuir et de s'échapper. Donc il commence à dire plusieurs motifs en disant la bravoure prévisible de tes compagnons de David, eh bien, c'est comme une ours privée de ses petits, David. Donc il faut que là tu rassembles beaucoup de gens pour pouvoir l'attraper. Et donc il lui décrit une stratégie, voilà, qui plaît en fait à ceux qui entourent Absalom. Et dans 2 Samuel, il est dit, l'Éternel lui-même a décrété d'annuler le bon conseil d'Achitophel. Il a décidé de faire venir le mal sur Absalom. En fait, ce plan-là a été adopté, le plan d'Hushaï, alors qu'il était alambiqué, il ne tenait même pas debout, si vous voulez. Mais oui, Dieu a permis que Absalom l'accepte et qui rejette celui Donc ne vous en faites pas, si vous êtes dans une difficulté, eh bien, même si ça paraît impossible, sachez que Dieu rend les choses possibles et que parfois, au dernier moment, il y a des choses qui se produisent. Hein. Je ne vais pas raconter comment on a eu ce local, mais c'est pareil. C'est que, voilà, on devait voir une banque et en fait, on a reçu un vase. Avec ce vase, on a acheté ce local sans avoir besoin de recourir à une banque. Seigneur, au dernier moment, fais des choses incroyables. Et plusieurs dans l'Église, vous l'avez expérimenté vous-même. Et voyez, Absalom était flatté. Flatté parce qu'en fait, vous voyez, il y a d'autres personnes qui, quand ils sont flattés, même si ça ne tient pas debout, ce projet du chat ne tenait pas debout, mais il était flatté. Et donc, il a adopté. Comme quoi, eh bien, souvent, la flatterie eh bien, fait faire des mauvaises choses à des gens qui se laissent flatter. Si vous lisez le psaume 3 et le psaume 7, ça se rapporte complètement à cette histoire que j'évoque très rapidement, et en lisant combien le cœur de David est déchiré par cette situation, mais en même temps, sa confiance en Dieu. Il croit que même que c'est impossible à sortir de là avec le meilleur conseiller qui est auprès de son ennemi, eh bien, il va s'en sortir. Voyez-vous, ce récit est l'occasion d'attirer notre attention sur l'importance pour un enfant de Dieu de choisir très soigneusement ses amis et ses conseillers. On le dit, dites-le à vos enfants, hein, dans les copains qu'ils se font. Hein. Une fois que vous avez un copain et que vous ne l'avez pas bien choisi, eh bien, vous risquez voilà, des choses qui ne sont pas justes. Il y a ma belle-mère, donc la maman de Michel, qui est une femme de prière, elle priait tout le temps. Elle était en communion avec le Seigneur. Et nous, on habite en forêt. Le dernier, après nous, il y a que la forêt. Et on n'a qu'un voisin, juste en dessous, qui avait deux enfants qui étaient le même âge que mes enfants. Enfin, que Samuel et Olivier. Et elle avait reçu du Seigneur, il faut pas les fréquenter. C'est pas possible, c'est des gens très bien et tout ça. Voilà. Voilà. Et en fait, elle a reçu du Seigneur, parce que quand vous écoutez le Seigneur, vous recevez des conseils. Et elle a dit à Michel et puis à moi, et on a prié pour ne pas qu'il les fréquente. Et en fait, on a bien fait, parce qu'en fait, après, il a commencé à faire des jeux de rôle. Il est allé dans le milieu de la France, enfin, à l'époque, c'était les jeux avec les démons, etc. Vous voyez. Et bon, je vous passe l'histoire. Et en fait, ils ont été protégés protéger de la mauvaise influence. Vous voyez, il faut le savoir avant. Et ça, c'est pas lié à une raison. Le garçon était très gentil et tout ça. Voyez-vous, mais il faut être conduit par le Seigneur pour prendre ses décisions et ses conseillers ou ses amis. Dieu aurait dû toujours, David, hein, aurait dû toujours faire sienne les paroles du psalmiste dans Psaume 119, « Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes préceptes. Et chaque croyant doit faire ce choix délibéré et capital de choisir par discernement ses amis. Ses amis, ses conseillers. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur. Si dans leur cœur, comme avec Abishai, d'un seul coup, en période difficile, ils passent du camp ennemi, bah vous êtes mort. Voyez. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont cachées dans les cœurs. Rien dans la parole n'indique qu'Achitophel ait eu une conduite personnelle comparable à celui de Jonathan. L'inverse d'Achitophel, c'est Jonathan. Relisez l'histoire de Jonathan et de David. Jonathan, il aimait profondément David. Voyez-vous, si on veut diriger une structure, soit une église ou autre, etc., il faut que des gens aiment le leader. Non pas parce qu'ils doivent l'aimer, mais c'est parce que s'il n'y a pas d'amour profond, eh bien dans la difficulté, il va te lâcher. Il va te lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on lui donne raison à tout, parce qu'il n'est pas parfait, il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais ce qu'il représente, ce qu'il porte, la vision, vous ne pouvez pas le dissocier. Parce que vous-même, vous êtes dans la vision qu'il porte. Donc il faut suivre le porteur de la vision et l'aimer. Jonathan, c'est ce qu'il a fait. Lui, c'était le fils de Saül, mais il a aimé David et il lui a dit, mais écoute, je ne peux pas. Mais je t'aime et ils ont fait une alliance d'amour ensemble, une alliance affective et un profond attachement. Dans 1 Samuel, il est dit, il est venu dans les bois pour fortifier son âme en Dieu. Voyez-vous, on a besoin d'être fortifié. Je vous disais tout à l'heure que dans le Mantois, il y a eu énormément d'attaques sur les pasteurs. Mais c'est les pasteurs qui souffrent et on a vu un pasteur souffrir devant nous. Mais c'était horrible. C'est horrible. Et souvent, les chrétiens ne se rendent pas compte qu'il y a une souffrance parce que l'ennemi attaque d'abord le pasteur. Il veut séparer les brebis. Voyez? Et quand on ne prend pas conscience de la stratégie de l'ennemi, bah, voilà, on prend les choses comme ça au premier degré. Non. C'est que l'ennemi veut frapper le berger pour que le troupeau, eh bien, se disperse. David avait d'autres amis qu'on peut citer, Ittaï, Michibochette, qui l'aimait profondément. On a beaucoup d'exemples de cet amour où ils reconnaissent que David a une onction, ouais, a une onction, a reçu un appel, Barzillai, etc. Et donc, c'est reconnaître les rôles que Dieu attribue à chacun. Et en les respectant, ils respectent Dieu. Et on respecte celui qui donne ses rôles. Donc attention aux faux amis, à ceux qui se révèlent dans des circonstances difficiles à vous trahir. Gardons notre cœur plus que toute autre chose, dit la parole, parce que d'elle sont les issues de la vie. La vie ou la mort dépendent de notre cœur qui est gardé. Des choses bonnes que Dieu veut nous donner. Alors souvent les jeunes chrétiens, eh bien, ils font une simple amitié sans faire attention, et puis après ils sont pris dans un maelstrom et ils s'aperçoivent que cet ami, eh bien, n'est pas fiable. Faites attention. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il est dit de ne pas se mettre sous un joug mal assorti avec un incrédule. Croyant et un incroyant, si vous les mettez ensemble, eh bien, il y a forcément des problèmes. Parce que il y en a un qui a la crainte de Dieu, l'autre qui ne l'a pas. Donc, il y en a un qui va prendre des décisions en étant soumis à Dieu, et l'autre, non. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Il peut être très, très gentil. Mais on ne peut pas les mettre sous la même joug pour avancer. Vous savez que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Donc, Satan lui-même joue sur nos relations des amis, des conseillers, pour préparer Par la suite, hein, ça se mange froid, hein, pour lui. Il attend le bon moment pour vous frapper et pour trahir. Alors, encore un autre modèle, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est Tsiba. Tsiba, qui, dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 1, parle aussi de Méphibosheth, qui lui était très fidèle à David, et il a menti sur Méphibosheth, Tsiba. Et le Seigneur a permis à David de ne pas tomber dans son piège. Et c'est dans toute cette période où il était persécuté qu'il a encore eu cela. Et après, Méphibosheth lui a rappelé qu'il a complètement menti sur son compte. Comme dimanche dernier, j'ai dit, le meilleur conseiller, c'est le Seigneur lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons toujours le contacter. Même si nous avons des conseillers, ce n'est pas ces conseillers qui doivent donner le là, qui doivent donner eh bien, la décision finale, c'est le Seigneur. Il faut que celui qui est en responsabilité, le leader, doit savoir si ça vient de Dieu, cette décision, si y a une décision à prendre, ou si ça ne vient pas. C'est sa responsabilité. Il va répondre de cela devant Dieu. Voyez? Et on oublie beaucoup trop souvent. La parole nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, Hébreux 10. C'est très important de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres, de nous amener à nous soumettre à Dieu. Et pas nous soumettre à nos pensées, à ce qu'on croit être bien. Voyez, on n'est pas dans le monde, on est dans l'Église. Et je terminerai par ce fait qu'Achitophel a très mal terminé, parce que quand il a vu que son conseil n'a pas été suivi, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu, quand il a constaté que Absalom a choisi Hubshai. Et donc, finalement, David s'en est sorti, alors qu'avec le sien, il aurait gagné, il aurait tué David, puisque tout de suite, il le suivait, etc. Et quand il a vu que eh bien, son conseil n'a pas été suivi par Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose aussi? Avec Jésus, qu'est-ce qui s'est suicidé? C'est Judas. C'est la même chose, c'est le même esprit, c'est le même état d'esprit. Voyez-vous, il était dans l'orgueil de croire qu'il avait la solution. Judas était dans l'orgueil de dire, eh bien, le fait de trahir Jésus, c'était pas, voilà, c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que Jésus, il remontait les Romains contre les Israélites à l'époque, hein, donc il perturbait. En plus, il ne voulait pas prendre les armes, Jésus, alors que pour eux, le Messie, c'est celui qui libère Israël. Vous voyez, dans sa tête, hein, Jésus ne correspondait pas du tout à la vision qu'il avait du Messie. Et donc, le fait de le trahir, pour lui, ce n'était pas une mauvaise chose. Hein. Mais quand il a vu qu'il s'est trompé, parce qu'au moment donné, ceux qui font cela, eh bien, il voit que, eh bien, au lieu de se repentir, il se suicide. C'est dramatique. Mais ça montre qu'au départ, leur cœur était mauvais. Leur motivation était mauvaise. Leur manière de penser était mauvaise. C'était caché. C'était le meilleur conseiller de David, et pourtant c'était caché. Il avait de la haine contre David. Même lui-même, peut-être, le ne savait pas. Mais il n'avait pas pardonné à David ce qu'il avait fait. Et quand on est là, eh bien, on se dresse en juge, alors que le seul juge, c'est Dieu. Nous, on doit s'aimer, et pas se juger. Allô? Ça vous dit quelque chose? On va prendre la Sainte Cène. Est-ce qu'on doit se juger? Qu'est-ce qui est marqué? On sera jugé de la même façon. Voyez-vous, dès que l'homme juge l'homme, dès que l'un juge l'autre, quelque raison que ce soit. Là, c'était justifié. Il pouvait juger David. David était un peu trop laxiste avec ses fils. Il n'a rien dit contre Amnon, etc. Non. Michel a développé tous ces points-là. Vous l'avez suivi. Hein. Voilà. Donc, il y avait une raison. Une raison. Mais ce n'est pas à l'homme de juger son frère. Voyez-vous? Caïn, il a jugé son frère Abel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Ici, Achitophel s'est suicidé. Il a dit, eh bien, ça ne sert plus à rien parce que je ne suis pas écouté. Eh bien, donc, moi, je me suicide. Et il s'est suicidé. Et voyez-vous, c'est comme ça que se terminent tragiquement des personnes qui veulent faire leur volonté. Leur volonté, ils sont tellement sûrs que ce qu'ils font, c'est bien, qu'en fait, ils comptent sur eux-mêmes, ils comptent sur leur force, ils comptent sur leur savoir, ils comptent sur leur sagesse. Et c'est pour ça l'apôtre Jacques dit que c'est une sagesse diabolique. Tout ce qui est diabolique se retourne contre nous. Tout ce qui est diabolique se retourne contre celui qui veut faire bien. Mais c'est l'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie, c'est Jésus. C'est le seul qui a donné sa vie, c'est Jésus. Il est mort pour nos péchés, on l'a chanté tout à l'heure. Et c'est en lui que nous avons la victoire, c'est en lui que nous pouvons nous confier, parce que c'est lui qui est juge, et il sera le juge quand il va venir. Non, ne vous en faites pas. Tout ce que vous avez vécu comme injustice, Dieu va le juger. Mais ce sera lui, et son jugement sera juste, parce que il ne juge pas comme les hommes jugent, avec une rancœur, une rancune, mais il va juger avec sagesse. Alors, je vous invite à prier. Je termine juste par ce verset pour vous montrer que dans 2 Samuel, il dit, quand Achitophel vit qu'on ne suivait pas son conseil, voyez-vous, il était centré sur sa sagesse, il sella son âne, se mit en route pour retourner chez lui dans sa ville. Ah, il a fait les choses paisiblement, hein. Il mit ses affaires en ordre, puis se pendit et mourut. Voilà comment ça s'est terminé. Déconseiller, oui, pour terminer le titre de ma prédication, oui, mais en laissant toujours à Dieu le dernier mot, quitte à aller à l'encontre des conseils, à l'encontre des conseillers humains, parce que le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Et c'est nous qui devons recevoir cette conviction, sinon nous ne pouvons pas être leaders sous la conduite du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous te prions pour que chacun d'entre nous, qui sommes confrontés à des choix d'amitié, des choix de conseiller, pour être conseillé d'une manière ou d'une autre pour tel sujet grave ou moins grave, Seigneur, donne-nous toujours la sagesse de te consulter, toi. Et Seigneur, si c'est en accord, bien tant mieux. Si ça ne l'est pas, que nous puissions avoir le courage de résister à ces conseillers, Seigneur. Et que, Père, ce soit toi qui sois honoré, parce que toi, tu connais ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous, Seigneur. Tu savais ce qu'il y avait de mieux pour David. Il fallait qu'il passe par ce chemin pour éviter qu'il s'enorgueillisse. Seigneur, tu as permis toutes ces vexations qu'il a pu vivre pendant ce moment où son fils s'est dressé contre lui. Mais Seigneur, tu as fait justice, tu l'as rétabli sur le trône. Parce que Seigneur, il ne s'est pas accroché à ce trône. Il ne s'est pas battu pour le garder, Seigneur. Mais c'est toi qui lui as donné à nouveau, parce qu'il était obéissant à ta parole. Seigneur, donne-nous à tous ce cœur de David, ce cœur de Jésus, ce cœur de soumission au Père. Et que Seigneur, tu nous aides dans cette nouvelle phase de l'Église, d'avoir des conseillers qui aient un cœur pur, un cœur qui est centré sur la vision de l'Église. Et que, Seigneur, nous puissions tous porter ensemble cette vision pour l'accomplir. Seigneur, parce que tu veux que cette région soit évangélisée, qu'elle puisse connaître ta parole, que, Seigneur, des âmes en grand nombre puissent te connaître. Mais pour cela, nous devons être, Seigneur, sous ta bannière. Nous devons te suivre. Et pour cela, nous avons besoin de conseillers qui cherche, Seigneur, cette gloire, uniquement la gloire de Dieu. Seigneur, nous te prions de nous aider à la rentrée, de rentrer dans ces choses et que toute louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.